Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bousouma à la présentation.
Encore des crépitements des balles à Goma cette semaine dans plusieurs quartiers de la ville. Le conseil des jeunes de Karisimbi tire la sonnette d'alarme. Selon cette structure, cette situation d'insécurité implique notamment des éléments incontrôlés de l'armée et des groupes des Wazalendo. De plus en plus des dégâts à Bumba Centre en cette saison de pluie. C'est quasiment chaque jour qu'il pleut, occasionnant ainsi des bourbiers, voire l'écroulement des habitations dans cette partie de la Mongala. Les habitants sont aux abois. Et puis, Christian Mwando plaide pour la réduction drastique des dépenses institutionnelles afin d'allouer un budget conséquent aux provinces et aux secteurs sociaux de base. Le président du groupe parlementaire de l'opposition est l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par Goma, au Nord Kivu. Des crépitements de balles ont une fois de plus été entendus de 22h à 3h du matin dans la nuit de mercredi à hier jeudi dans plusieurs quartiers, particulièrement dans les quartiers Mugunga et Ndosho dans la commune de Karisimbi. Si les raisons de cette situation sont diversement justifiées par les autorités locales, la population civile s'est dit inquiète. Le récit de Bernard Nyangi.
Il n'y a jusqu'ici aucune déclaration de la police au sujet de ces crépitements. Les chefs des quartiers Mugunga et Ndosho notamment parlent des échanges de tirs entre les patrouilles des forces de l'ordre et des bandits armés qui tentaient de cambrioler dans certaines avenues. Ils n'ont livré cependant aucun bilan de ces accrochages, excepté quatre présumés bandits interpellés avec des armes dans une avenue d'Ndosho. Les effets de ces crépitements de balles chaque nuit dans plusieurs quartiers de la ville de Goma deviennent inquiétants, comme en témoigne ici le président du conseil local de la jeunesse de Karisimbi.
Imaginez-vous, les balles ont crépité à l'excès. Et nous nous posons la question pourquoi ces balles sont en train de crépiter presque toutes les nuits. Et arrivé le matin, on ne sait même pas la cause. On se pose la question, quel serait le sort de nos mamans qui sont enceintes, de nos bébés.
Le conseil des jeunes en commune de Karisimbi alerte le commandant régent et le commissaire provincial de la police pour une solution à cette situation qui implique, pour la plupart de cas, selon cette structure, certains éléments incontrôlés de l'armée et des groupes de Wazalendo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Justement, parlant de l'insécurité dans l'Est de la RDC, en mission à la Cour pénale internationale CPI, le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international exprime l'indignation de la RDC face au retard constaté dans l'ouverture de l'enquête sur les crimes qui se commettent dans la partie Est du pays. Samuel Mbemba l'a dit mercredi à La Haye, en Hollande, au cours d'un échange avec le procureur adjoint de la CPI ainsi qu'avec les membres du bureau de cette institution. Des précisions avec Blaise Ndonga.
Au cours de cette rencontre de quelques heures, le vice-ministre de la Justice n'a pas aménagé ses interlocuteurs. Samuel Mbemba leur a fait savoir la désapprobation des Congolais qui se rendent compte des manques de volonté de la Cour pénale internationale de traiter les dossiers de leur pays. Au sorti de cette réunion, le vice-ministre de la Justice a déclaré, je cite, « S'il y a un endroit dans ce monde par excellence où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, c'est la RDC ». Fin de citation. Pour Samuel Mbemba, le peuple congolais ne comprend pas les raisons de la léthargie de la CPI dans le traitement de la requête de la RDC qui lui a transmis des renvois sans en avoir les réponses. Fin août dernier, le gouvernement congolais avait lancé à Kinshasa la campagne nationale dénommée CPI Justice pour la RDC. Samuel Mbemba avait expliqué devant les médias qu'à travers cette initiative, le gouvernement congolais attend obtenir de cette cour des enquêtes sur les atrocités commises par les Rwandais dans l'est du pays. À cette occasion, ces membres du gouvernement souminois avaient également sollicité l'accompagnement de tous les Congolais pour l'aboutissement de cette campagne.
Rendons-nous dans le Grand Bandundu. Au moins 10 miliciens Mobondo ont été neutralisés lors des affrontements avec les FARDC à Kwamout. Cela s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi entre les localités Louémé et Nicolas. L'armée affirme avoir récupéré des armes, des munitions de guerre et des armes blanches, ce dans le cadre de l'opération Ngemba, qui veut dire la paix, opération qui vise à pacifier la région. Le porte-parole de la 11e région militaire qui le dit indique qu'actuellement la situation sécuritaire est relativement calme. Le capitaine Anthony Mwalushai invite les miliciens encore actifs à se rendre complètement au FARDC. Direction la province de la Mongala. Je vous l'ai dit dans les titres, les dégâts se multiplient à Bumba Centre depuis le début de la saison des pluies. Les pluies diluviennes tombent quasiment chaque jour, ce qui occasionne des flaques d'eau, des bourbiers, voire l'écroulement des habitations. C'est notamment dans les quartiers marécageux de Lingondié, au nord de la cité, où les habitants sont aux abois. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Le dernier cas en date est celui survenu mercredi matin sous une pluie battante sur la 12e rue au quartier Lingondié. Des témoins affirment qu'une maison en pisé s'est complètement abattue sur une femme veuve avec ses 3 enfants. Tous les occupants ont été coincés entre les lits et les murs en ruine. Cependant, aucun voisin ne pouvait intervenir car leur cri de détresse était à peine audible à cause de la tempête. Grâce à sa petite taille, la Benjamine de 5 ans est parvenue à se soustraire des décombres. Elle a accouru alerter les voisins qui sont venus porter secours en soulevant les sinistrés des décombres. Aucune perte en vie humaine, mais la veuve Myriam et ses 3 enfants au bord de l'asphyxie ont été amenés d'urgence à l'hôpital pour des soins appropriés. Nos sources affirment que les victimes sont abandonnées à leur triste sort. Elles ne bénéficient d'aucune visite ni assistance des autorités municipales. Avec l'abondance des pluies, la population redoute que plusieurs dégâts liés aux inondations aient lieu, mais aussi l'écoulement des maisons en daube, surtout dans les quartiers marécageux ou au bord du fleuve. D'où leur SOS à l'endroit des autorités territoriales et provinciales. Bondaka, Porcha Malengela, Radio Okapi.
Par ailleurs, plusieurs régions de l'Ituri connaissent des pluies abondantes ces dernières semaines. Des cas d'inondations et de glissements de terrain sont observés notamment dans les territoires de Mahagi et d'Irumu. À Bunia, ce sont surtout les déplacés qui en payent le prix. À chaque fois qu'il pleut, ils vivent un calvaire. Leurs abris faits de bâches depuis au moins 5 ans suintent de partout. Sadiq Aboubakar s'est rendu dans un site de la ville. Voici son reportage.
Nous sommes dans le site des déplacés de Kigonze. Sous un ciel nuageux, quelques familles commencent déjà à s'inquiéter de la probable tombée de la pluie. Devant nous, une mère de famille est entourée de ses 3 enfants, visiblement affamés. Cependant, une inquiétude se lit sur son visage, la pluie qui s'annonce. Car ses enfants et elle vivent sous une vieille tente, laquelle suinte de partout. Abeti Namadassi, c'est ainsi qu'elle s'appelle, s'imagine déjà le calvaire à venir.
À chaque fois qu'il pleut, nous vivons du calvaire. Et lorsque la pluie est accompagnée d'un vent violent, c'est encore pire. Ces bâches ont tendance à se détacher de l'abri. Regardez comment cet abri est déjà vieux. Ça suinte de partout. Pendant la nuit, on est obligé de rester debout avec les enfants jusqu'à ce que la pluie cesse pour maintenant étaler nos nattes dans la boue. On est exposé au paludisme tous les jours.
Ces abris datent d'au moins 5 ans. Les bâches, en lambeaux, nécessitent d'être changées, affirme-t-elle. Il y a de cela 2 semaines, la maison de communication Vodacom a assisté quelques centaines de familles avec notamment de nouvelles tentes, mais le besoin reste énorme dans ce site qui héberge au moins 3300 familles. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Restons en Ituri pour signaler le lancement mercredi du projet pilote de reboisement de 50 hectares d'arbres à Diango. Nous sommes environ 10 kilomètres à l'ouest de Bunia. C'était en présence du gouverneur de province et le directeur de Fonds forestier national. Selon ce dernier, l'objectif est de renouveler des millions d'arbres déjà coupés dans les forêts de l'Ituri. Des parcs à bois seront également construits à Haru et à Mahagi pour la traçabilité des bois sciés exportés à l'étranger. Reportage de Martial Kizabiamungu.
Des centaines de plantules ont été mises à terre dans la savane de Diango. D'après Honoré Moulumba Kalala, directeur général du Fonds national forestier FFN à mission de service à Bounia, au cours de ces projets, 50 hectares d'arbres seront plantés dans plusieurs entités pour renouveler le bois des forêts de la province de l'Ituri. Le gouverneur des provinces a planté les premiers manguiers dans ces sites de Diango. Pour le général Lubuya Kashaba, c'est pour interpeller la population entière de sa province. C'est juste pour contribuer au reboisement.
Nous avons une progéniture que nous devons protéger. Et pour protéger cette progéniture, nous devons lui laisser un environnement agréable.
Les groupes de travail climat RED Rénové, section de l'Ituri, salient cette initiative. Son coordonnateur, Dieudonné Lossa, interpelle les autorités à tout mettre en œuvre pour stopper les trafics fraudulés de bois sciés de l'Ituri vers l'Ouganda.
Courage, les nouveaux DG des Fonds forestiers nationaux. d'aller jusqu'à la réalisation de cette construction de parc à bois.
Il y a 3 semaines, l'administration militaire a planté plusieurs arbres sur l'artère principale du boulevard de la Libération dans la ville de Bounia dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Parlons santé à présent. L'ambassade des États-Unis fournit des plus amples informations sur les vaccins Mpox, tout en informant le public ainsi que les professionnels de santé sur la maladie des Monkeypox. Pour ce faire, elle a organisé hier une session de questions et réponses dans l'enceinte du Centre culturel américain de Kinshasa. Le docteur Michael Kinzer, responsable de la réponse Mpox au pays, précise que le vaccin que la RDC possède n'a pas été validé pour les enfants. Par ailleurs, la population concernée pour cette première vague de vaccination est considérée comme celle qui est plus exposée à l'épidémie. Dr Michael Kinzer explique au micro de Stanislas Diumi.
Le vaccin que nous avons dans le pays maintenant, ça n'a pas été validé pour les enfants. Il y a des vaccins qui sont validés pour les enfants, mais pas celui-ci. Première chose, nous devons toujours avoir des interventions qui ne causent pas plus de dégâts qu'ils résolvent. Deuxième chose, la population qui est en train d'être vaccinée, par exemple les agents de santé, ce sont les gens qui sont une des plus à risque, les populations des plus à risque à être exposées au Mpox et infectées. Et aussi, ils sont à risque de transmettre le Mpox, puisque ce sont des agents de santé. Donc, en les protégeant, nous protégeons les parents des enfants qui viendront au centre de santé et les enfants eux-mêmes. Nous protégeons les communautés en protégeant les agents de santé qui servent ces communautés.
Santé toujours. Au Congo central, début hier de la 3e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, c'est du 10 au 12 octobre dans les 31 zones de santé de cette province. Le ministre provincial de la Santé, Dr Ovid Yobila, qui a procédé au lancement, appelle à l'implication de tous pour permettre aux responsables sanitaires de riposter à la circulation du poliovirus en RDC. Le pays enregistre à ce jour plus de 1065 cas de poliomyélite des 3 types différents. Cette campagne de vaccination est organisée par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers traditionnels du secteur de la santé, à savoir l'OMS et l'UNICEF. Nanaf Plurich Mambou, reportage.
Ces 3e passage de la campagne nationale de riposte vaccinale contre la poliomyélite cible 906 617 enfants de 0 à 59 mois répartis dans les 31 zones de santé du Congo central. La division provinciale de la santé du Congo central utilise la stratégie porte-à-porte. 416 aires de santé sont ouvertes à travers la province. 5474 prestataires de santé, 2662 mobilisateurs sociaux, 1250 superviseurs de proximité, 155 superviseurs des axes et 62 superviseurs provinciaux techniques et de communication sont mis à contribution. Le ministre provincial de la Santé du Congo central a rappelé que la circulation du poliovirus continue en RDC. Docteur Ovid Yobila.
La République démocratique du Congo a enregistré un total de 1066 cas de poliovirus circulant. Il y a persistance de la circulation des poliovirus dans 21 des 26 provinces du pays.
Rappelons que c'est depuis 2023 que la RDC, avec l'appui de ses partenaires de l'Initiative mondiale d'éradication polio, a mis en œuvre un plan de réponse avec 8 passages de riposte vaccinale alternant les vaccins MVPOD et VPOB. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Au Nord Kivu également, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier à Beni. Plus de 100 000 enfants de moins de 5 ans sont concernés. Les responsables sanitaires ainsi que les parents appellent la population à participer activement à cette vaccination qui durera 3 jours. Grévis Saloumou, reportage.
Chaque enfant recevra 2 gouttes de vaccin dans le cadre de cette nouvelle campagne qui se déroulera par la méthode du porte-à-porte. Le docteur Michel Tosalisana, médecin chef des zones de santé de Beni, encourage les parents à accueillir les équipes de vaccination sur le terrain.
Tous les parents, de rendre disponibles les enfants pour qu'ils puissent les prévenir contre la poliomyélite, cette maladie grave qui rend infirme l'enfant toute sa vie. Tous ces enfants-là, ils ont droit aussi à la vaccination.
Des parents présents à cette cérémonie reconnaissent l'importance du vaccin. C'est le cas de cette mère qui a requis l'anonymat et qui est venue avec ses deux enfants pour les faire vacciner.
Nous reconnaissons l'importance du vaccin. C'est pourquoi nous sommes ici pour que nos enfants en bénéficient. Le vaccin est bénéfique pour l'avenir de nos enfants.
De ce côté, Mami Mazabou, une femme déplacée de Kanyabayonga, au sud du territoire de Lubero, appelle également les autres parents à ne pas ignorer cette opportunité pour le bien-être de leurs enfants.
Les parents ne doivent pas croire que le vaccin est dangereux ou qu'il tue leurs enfants. C'est faux qu'ils viennent faire vacciner leurs enfants pour qu'ils grandissent en bonne santé comme nous, leurs parents.
Béni Grévis Salomou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Niger. Le président Abdourahmane Tiani décrète le retrait de la citoyenneté nigérienne à 9 personnalités proches du président Mohamed Bazoum, renversé l'an dernier. Toutes ces personnalités sont considérées comme des opposantes à la junte militaire au pouvoir à Niamey. Cette décision s'appuie sur le fichier récemment instauré qui recense les personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de l'État.
L'invité.
Dernière livraison de notre série sur la répartition budgétaire et les inégalités salariales. Nous recevons le député national Christian Mwando, ancien ministre du Plan et président du groupe parlementaire de l'opposition. Il plaide pour la réduction drastique des dépenses institutionnelles afin d'allouer un budget conséquent aux provinces et aux secteurs sociaux de base. Christian Mwando est avec Michel Kifindangoy.
Christian Mwando, bonjour.
Bonjour, Monsieur Kifinda.
Vous venez des vacances parlementaires et vous êtes bien imprégné des problèmes de la population dans vos circonscriptions respectives. Comment le gouvernement peut-il résoudre ces problèmes?
Je pense que la première solution au problème des Congolais, c'est effectivement la décentralisation. Nous avons l'impression aujourd'hui que Kinshasa a repris la gestion de l'ensemble du pays, mais Kinshasa ne gère que pour Kinshasa. La République de la Gombe est vraiment en marche. L'intérieur du pays est totalement abandonné. Soit disant que les provinces n'ont pas la capacité de gestion, tout l'argent se consomme à Kinshasa avec des dépenses inutiles, en voyage, en stade, des jeux de la francophonie, des interventions inutile. On nous parle d'ailleurs de la construction d'un nouveau Sénat, d'un nouveau Parlement. On ne comprend pas où est l'intérêt des Congolais. Il n'y a pas de route. Le territoire de Momba, par exemple, et comme tous les autres territoires que j'ai vus, il n'y a aucune route. À la prochaine saison des pluies, tout va être coupé. Quand vous regardez l'exécution du budget du développement rural, aucune exécution. On n'a exécuté que les salaires et, bien entendu, les 300 millions qu'on a donnés au forage à Kinshasa. Vous voyez qu'on est à côté des priorités. Je pense qu'il y a une grande irresponsabilité au niveau de Kinshasa. Il faut que l'argent des provinces rentre dans les provinces et que l'argent des ETD rentre aux ETD pour espérer qu'il y ait quand même un développement au même rythme au niveau de la République démocratique du Congo.
Quelles sont, à votre avis, les priorités qui devraient être prises en compte dans le budget 2025?
La première priorité, et la priorité absolue, c'est la sécurité. Vous savez que Kinshasa est devenu invivable avec les Kuluna. Vous avez les Mobondo, vous avez à Lubumbashi. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, il y a un couvre-feu à partir de 22 heures. Tous les jours, quand je prends la ville de Kalemie, c'est chaque jour qu'on entre dans les maisons des gens, malgré les efforts du nouveau gouvernement. C'est dû au fait que, je pense, que les forces de sécurité sont aussi mal payées et mal équipées. La deuxième grande priorité, c'est le désenclavement de l'arrière-pays. Aujourd'hui, le gouvernement doit se concentrer sur des grands projets. Est-ce qu'on ne peut pas, sur les 18 milliards, prendre 1 milliard pour dire qu'on termine avec le problème du chemin de fer, par exemple, au niveau de l'ensemble du territoire national? Est-ce qu'on ne peut pas donner aux provinces de l'argent pour que le cantonnage manuel, pour que les routes de dessert agricole se fassent. Les routes de jonction entre les provinces, les territoires et les villes doivent se faire. Et puis, il y a l'agriculture. On parle de l'agriculture. Voyez dans la reddition de compte 2023. Rien n'a été payé également à l'agriculture. La diversification de l'économie n'est qu'un slogan. L'électricité. Est-ce que vous pouvez créer des industries sans électricité? Et l'eau, partout où je suis passé, chez moi, les gens ont des problèmes d'eau potable.
De plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer la mauvaise affectation des ressources de l'État. Quelles sont, à votre avis, les dépenses farfelues qui devraient être supprimées ou drastiquement réduites?
La première dépense qui est vraiment inutile et qui énerve aujourd'hui tous les Congolais, c'est les voyages d'abord du président de la République, du gouvernement et des institutions. C'est pas possible. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, après à peine 8 mois après son élection, le chef de l'État a déjà fait plus de 30 voyages à l'extérieur du pays avec des centaines, des milliers de personnes. On a vu même des gens de force de progrès à New York, c'est-à-dire on est en train de s'amuser inutilement avec l'argent de l'État. Deuxièmement, toutes ces dépenses-là qui concernent l'amusement, hein, de construction des stades, de construction des bâtiments, ces bâtiments financiers. On a vu même des bâtiments financiers qui ont coûté des centaines de millions de dollars, qui ont été inaugurés inachevés. Il y a des dépenses plus importantes, l'eau, l'électricité, l'enseignement, les soins médicaux, c'est ça que le peuple attend. Et en plus, la sécurité. Parce que dans ce pays, on fait des déclarations, on fait entrer les gens dans des choses et puis on n'arrive pas à les assumer. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est un échec total. On décrète aujourd'hui la gratuité de la maternité. Est-ce qu'on a un programme d'augmentation du nombre de naissances dans notre pays? Quel est l'intérêt de faire ça? Sinon, que de faire du populisme? On aurait pu renforcer les structures médicales.
Christian Mwando, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, M. Kifida.
Et par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.